Bonjour à tous, ou rebonjour à tous. Donc aujourd'hui, ça va être un message un petit peu particulier, puisque on a eu sept messages déjà sur les sept lettres que Jésus a adressées aux sept églises. Eh bien, on va tout reprendre pendant 7 heures. Donc on est là jusqu'à ce soir. Non, bien évidemment. L'idée aujourd'hui, c'est de faire un peu, d'avoir une espèce de vision globale de cette église. Et je vais essayer de vous montrer en particulier que l'ordre des églises et les messages envoyés aux églises ne sont pas complètement aléatoires. Il y a un ordre, il y a une continuité. Et c'est pour cela que je vous ai remis dans ce document. Donc on regardera surtout la première page. La deuxième, c'est juste pour vous, pour avoir des parallèles supplémentaires. Mais on va se concentrer sur la première page, là où il y a les gros traits noirs. D'accord? Et sur cette première page, vous voyez qu'il y a deux choses très visibles. C'est le bandeau en haut, qui résume les promesses que fait Jésus à chacun de ceux qui vaincront dans les églises successives. Mais vous voyez également un deuxième, alors ça augure mal parce que ça va vers le bas, et qui va matérialiser le chemin large qui mène à Laodicée, qui est, comme on l'avait dit la dernière fois, l'exclusion mutuelle entre Jésus et l'église. Donc vous voyez que le message de Laodicée est très dur. Et on va voir en fait qu'il y a une logique nous menant d'Éphèse, l'arbre de la connaissance, à Laodicée. On peut y voir ici le chemin large et en haut le bandeau, le chemin étroit. Un chemin de fidélité avec Jésus versus quelque chose qui va de mal en pis si on ne fait pas attention. Mais vous verrez également, et je vais conclure par cela, que même dans le cas de Laodicée, il y a moyen de remonter, si je puis dire, par les promesses que Jésus, donc les exhortations que fait Jésus à l'église de Laodicée. Donc on conclura par ça, qui est en fait un appel au réveil, comme on le verra. Et donc l'ordre des choses pour aujourd'hui, ça va être très simple donc. Je vais d'abord commencer par vous montrer les continuités d'une église à l'autre, juste par des petits indices qui sont glissés dans les sept messages aux sept églises. Ensuite, j'aborderai cette pente descendante. Ensuite, l'enchaînement des promesses. Et je terminerai par Laodicée, l'appel au réveil. Alors d'abord, regardez un petit peu les correspondances littéraires et symboliques d'église en église. Donc, vous voyez qu'il y a bien sept colonnes. Et donc, il suffit de regarder à chaque fois sous le nom de l'église correspondante ce à quoi je fais allusion. Par exemple, à l'église d'Éphèse, Jésus avait dit, il y a une chose qui est bien, tu hais les œuvres des Nicolaïtes. Donc, Éphèse, gardez les Nicolaïtes dehors. Mais regardez la troisième colonne, l'église de Pergame. Il y a des gens parmi toi dans l'encadré noir, ici. Il y a des gens parmi vous qui maintiennent la doctrine des Nicolaïtes. Vous voyez que ceux qui étaient exclus d'Éphèse est entré dans Pergame. La continuité en positif, par contre, on la voit entre Éphèse et Smyrne. À Éphèse, il est question de l'arbre de vie, et à Smyrne, il est question de la couronne de vie. Je te donnerai la couronne de vie. Donc le thème de la vie est un thème de continuité entre Éphèse et Smyrne. Vous voyez également que dans Pergame, dans la deuxième partie de leur grand encadré noir, il est dit donc que Pergame enseignait les doctrines de Balaam. Et ça se traduisait par de la viande sacrifiée aux idoles et l'impudicité. Mais c'est exactement ce que l'on retrouve ensuite dans l'église de Thyatire, même enseignement. Mais l'Église de Thyatire, c'est encore pire, puisque Dieu dit « Je frapperai de mort tes enfants », ce qui n'avait pas été dit au niveau de Pergame. Et comme par hasard, l'Église suivante, l'Église de Sardes, tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Sardes est enfant de Thyatire, et là où Jésus avait dit « Je frapperai de mort tes enfants », l'enfant de Thyatire, c'est-à-dire Sardes, est mort. Vous voyez la continuité là encore ? Jésus avait dit comme promesse à l'église de Thyatire, c'est marqué tout à fait en haut dans la colonne Thyatire, et je lui donnerai au vainqueur l'étoile du matin. Et il se présente à l'église de Sardes suivante, je suis celui qui tient les sept étoiles. La continuité, le thème de l'étoile. À l'église de Sardes, il avait dit, souviens-toi de ce que tu as reçu et garde-le. Ça, c'était l'église de Sardes. Et à Philadelphie, parce que tu as gardé ma parole, je te garderai. Le thème d'être gardé, là encore, est une continuité, cette fois entre Sardes et Philadelphie. Et enfin, il y en a un que je vous ai marqué en bas ici. À Philadelphie, Jésus avait dit, je mettrai devant toi une porte ouverte. À Laodicée, l'église a fermé la porte que Jésus avait ouverte. L'église l'a fermée. Mais non seulement elle l'a fermée, mais elle a mis Jésus dehors. Puisque Jésus est obligé de frapper à la porte. Il est dehors. Donc vous voyez que par des petits mots comme ça, on arrive à voir des liens d'une église à l'autre et on voit une progression. Et souvent la progression, elle n'est pas en bien. Hein. C'est plutôt, ça se dégrade. Voilà, on pourrait en nommer d'autres. Par exemple, dans l'église de Sardes, il y en avait encore qui étaient dignes et portaient des vêtements blancs. Dans l'appel à Laodicée, achète de moi des vêtements pour qu'on ne voit pas la honte de ta nudité. Le thème du vêtement. Voilà, on pourrait très certainement en nommer d'autres, mais ça montre à nouveau que les messages ne sont pas disposés n'importe comment et qu'il y a certainement une lecture transverse que l'on peut faire des sept messages que Jésus adresse aux sept églises. Ce n'est pas simplement des églises au hasard avec des messages spécifiques sans ordre. Alors quand je dis ça, ça invite à une autre lecture des sept églises qui consiste à y voir sept phases de l'histoire de l'Église. Maintenant, ce n'est pas de n'importe quelle Église. Vous vous souvenez, je dis juste un mot là-dessus, que le livre de Daniel se concentre sur les empires méditerranéens, en particulier orientaux. L'empire de Babylone, l'empire médo-perse, l'empire d'Alexandre le Grand, qui a commencé en Occident, en Macédoine, Grèce, et s'est étendue jusqu'en Orient, aux frontières indiennes, et l'Empire romain, qui de la même manière a commencé en Occident, à Rome, et a conquis l'ensemble du bassin méditerranéen. Donc on voit que le lieu de Daniel et le lieu de la prophétie, c'est la mer Méditerranée, on va dire. Et bien de la même manière, on peut lire les sept messages aux sept églises comme étant sept phases de l'Église autour de ce bassin méditerranéen, incluant les églises européennes et les églises orientales. Donc ça, c'est tout un travail que je fais depuis bien longtemps, qui rentre dans le cadre d'une interprétation prophétique du livre de l'Apocalypse, qui, dans la continuité de Daniel, consistant à mettre en parallèle des symboles, des animaux, des métaux dans la statue, etc., et les mettre en vis-à-vis d'empires historiques, qui consistent, puisque le livre de Daniel et le livre de l'Apocalypse sont profondément impliqués, à lire l'Apocalypse de la même manière. C'est en fait la méthode de la réforme. Mais je ne vais pas le faire ici, mais c'est une deuxième manière de voir qu'il y a une continuité d'une église à l'autre. Donc aujourd'hui, je me suis dit, plutôt évidemment de vous faire une présentation historique, On va regarder plutôt une présentation personnelle. Voyons, s'il est possible, voyons dans ces deux chemins deux trajectoires individuelles. L'une qui se termine mal, l'autre qui marche, qui est fidèle avec Jésus. Donc regardons-le pour nous et qu'est-ce que ça implique. Alors on va d'abord regarder, on va commencer par ce qui n'est pas agréable et on terminera par ce qui est plus réjouissant. Alors, la première case noire ici, est-ce que vous vous souvenez quel était le problème principal d'Éphèse? Qu'est-ce qu'Éphèse avait perdu?
Le premier amour.
Le premier amour. Qu'est-ce que Jésus recommande à Éphèse?
Se
repentir. Oui, et quelle promesse est-ce que Jésus fait à celui, celle qui vaincra? Je te donnerai à manger
le pain de vie,
l'arbre de vie. Ça veut dire que le problème d'Éphèse, c'était l'arbre de la connaissance, par contraste. Donc, dans le monde, vous savez que depuis la chute, nous sommes tous héritiers de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Adam et Ève ont perdu la vie et ils se sont retrouvés, comme dit Dieu dans Genèse 3, maintenant que l'homme est devenu comme l'un d'entre nous pour ce qui est de la connaissance du bien et du mal. Mais voyons concrètement comment ça se traduit. Regardez n'importe quel sujet dans le monde. Sujet politique, économique, philosophique, religieux. Prenez tous les sujets que vous voulez. Ça finit toujours par deux camps qui s'affrontent. Le bien, le mal, le vrai, le faux, le blanc, le noir. Voyez ? Tous les débats se polarisent en deux camps. Ça, c'est la caractéristique que l'on peut voir du fait que l'homme est porteur de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est un arbre qui polarise parce qu'il y a deux pôles, le bien, le mal, la gauche, la droite, le vrai, le faux, le 0 et le 1. Même le binaire de l'informatique, c'est une traduction concrète de ça. C'est la logique. Un raisonnement binaire. Il n'y a que deux options. Et donc, il y a deux camps qui s'affrontent. Et ça, c'est là, c'est le moyen par excellence du diabolos. Le diabolos, c'est celui qui divise. Il excite en nous la connaissance pour nous diviser. On disait hier soir, donc, avec Abdel et Viviane, combien la théologie pouvait diviser. Combien les confessions de foi pouvaient diviser. Parce que plus on les rend précises, plus on y injecte notre compréhension à l'exclusion de celle des autres églises. Vous voyez ? Plus on veut être précis, plus on y met notre compréhension. Et pourtant, on ne connaît qu'en partie. Qui prétend tout comprendre de la parole ? Donc, plus on veut préciser, plus on divise. Parce que l'un va prendre telle option, l'autre va prendre telle autre option, et on commence à injecter des opinions. Je prends un peu le temps pour celui-là, parce que ça montre vraiment à quel point cette question d'arbre de la connaissance est importante. Et ce n'est pas pour rien que dès le livre de la Genèse, Dieu avait donné un choix à Adam et Ève. Soit vous dépendez de moi dans l'union à ma vie, soit vous voulez être autonome, mais vous allez être divisé. L'homme sera divisé d'avec la femme, le frère d'avec le frère, et c'est exactement ce qui s'est passé. Adam a rejeté la faute sur Ève, Ève a rejeté la faute sur le serpent, et Caïn a tué Abel. D'emblée, voilà. Mais comment cela se traduit-il dans l'Église? L'arbre de la connaissance du bien et du mal, il y vient lorsque, comme je l'ai dit tout à l'heure, on utilise la connaissance, on confond, et j'ai souvent dit ça dans les différents messages, on confond la révélation par l'esprit de la parole de Dieu, on laisse Dieu nous parler par la parole de manière personnelle, versus je bâtis une belle forteresse théologique que je vais plaquer sur la Bible en disant c'est comme ça. Et là on divise. On rejette ceux qui ne pensent pas comme nous, qui n'ont pas les mêmes options. Alors qu'on devrait se poser plutôt la question, qu'est-ce que tu vis avec Jésus ? Et si la personne peut rendre témoignage de ce qu'elle vit avec Jésus, j'allais presque dire, ça peut en choquer certains, mais qu'importe la théologie. Pourquoi ? Parce que la théologie, c'est la conséquence de notre vie avec Jésus. Jésus est notre lumière. Je ne méprise pas du tout la théologie, attention. Je dis juste que c'est la conséquence de notre marche avec Jésus. Et en marchant, il nous éclaire, il nous fait comprendre tel point de doctrine, tel verset biblique que jusque-là on n'avait pas compris, et on le partage, et on harmonise, et on s'éclaire les uns les autres, et on avance comme ça. Donc la théologie est quelque chose de dynamique, qui s'approfondit, qui s'élargit au fur et à mesure de la marche. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut simplement discerner par la raison seule. Je vais réfléchir, je vais faire une synthèse des commentaires bibliques, voilà la vérité. Ce n'est pas du tout comme ça que ça marche. Vous voyez ? Éphèse marchait par sa connaissance et non pas par l'amour à Jésus. On l'a dit tout à l'heure, hein, les deux commandements, aimer Dieu, aimer le prochain. Alors si je prends autant de temps pour chacun, on ne va jamais être dans les temps, donc je vais avancer un petit peu. Si ce que je dis n'est pas clair, n'hésitez pas. Il faut que ça soit... N'hésitez pas à le dire, s'il y a quelque chose que je dis qui n'est pas clair. Donc la connaissance est la conséquence de notre vie avec Jésus. Et on approfondit la connaissance de la parole et du Seigneur, qui est la lumière de la vie, qui est celui qui renouvelle notre intelligence et éclaire notre intellect pour comprendre par révélation sa parole. Et là, la parole, elle reste vivante. Ça ne devient pas une forteresse de raisonnement sec, sèche et morte. Donc voilà comment ça a commencé pour Éphèse. Et voilà comment ça peut commencer pour nous. On met en avant notre compréhension, c'est comme ça, pas autrement, plutôt que de mettre en avant la relation avec Jésus et nous édifier par des partages vivants. Ça commence comme ça. La deuxième étape, malheureusement, quand on mange de l'arbre de la connaissance, donc ça veut dire qu'on maintient notre autonomie, c'est ce que je comprends qui est important, et pas ce que nous partageons. La deuxième étape, c'est Pergame. Et là, je retiens simplement une chose. Tu as des gens qui retiennent la doctrine de Balaam, des Nicolaïtes, versus, c'est ce qu'il dit au départ du message à Pergame, il y en a qui retiennent mon nom. Et donc, le combat de Pergame, c'était retenir le nom de Jésus, la centralité de Jésus, l'amour pour Jésus, Jésus premier, versus retenir la doctrine. C'est intéressant. Éphèse, manger de l'arbre de la connaissance, Pergame n'est préoccupé que de questions doctrinales. On voit déjà le glissement. La traduction concrète de manger de l'arbre de la connaissance, il n'y a que la doctrine qui est importante. Et on divise. Ça, c'est Pergame. La conséquence de ça, on la voit dans « Qui attire ?» La lettre devient morte. Il y a un principe de mort qui s'installe. Vous vous souvenez de ce que dit Paul ? La lettre tue, l'esprit vivifie. La lettre sans l'esprit est une lettre morte. Elle a besoin d'être vivifiée par l'esprit. Voilà qu'à Thyatire, je frapperai de mort tes enfants. Il y a la mort, la sécheresse qui est en train de s'installer. Et là, c'est mon deuxième point d'accent que je vais mettre avant de continuer vers Sardes, Philadelphie, Laodicée. On a vu l'arbre de la connaissance, on met en avant la doctrine, conséquence, sécheresse spirituelle. Et là, j'aimerais alerter sur une chose qui n'est pas souvent abordée dans les églises, mais pourtant est importante. Je vous cite un passage pour illustrer mon propos. Et il y en a trois que j'ai relevés, mais j'en note un. Dans 1 Timothée 4, 1 à 5. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, on commençait il y a 2000 ans, hein, nous sommes dans les derniers temps. Quelques-uns abandonneront la foi vivante, l'attachement à Jésus, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Et là, il y a une série d'enseignements propres au danger qui menaçait l'église d'Éphèse, puisque Timothée était à Éphèse. Là, j'aimerais attirer l'attention sur un point, c'est le lien qu'il y a entre les fausses doctrines et les esprits de mensonge. Donc, on va dire les choses d'une certaine manière. Là où il y a manifestement un faux enseignement, il y a souvent un esprit séducteur quelque part. Ce que je veux dire, c'est que le monde spirituel, pour paraphraser Aristote, a horreur du vide. Si ce n'est pas l'esprit de Dieu dans lequel nous baignons, et qu'on commence à s'asseoir sur des doctrines, et voilà, c'est qu'il y a, il y a quelque chose là qui est en train de susurrer à l'oreille. Et qui met la division. Donc, faisons attention que le monde spirituel n'est pas neutre. Si Paul exhorte à s'attacher à Jésus, à être rempli de l'Esprit, à marcher par l'Esprit, à vivre avec Jésus, c'est parce que si on ne le fait pas, on est en train d'ouvrir les oreilles à autre chose. Il n'y a pas de neutralité dans le monde spirituel. Et en particulier, c'est frappant pour Thyatire, parce qu'il est dit, tu sondes les profondeurs de Satan. C'est ce que Jésus dit en particulier à l'église de Thyatire. Celle, justement, dont Jésus menace de tuer les enfants. Thyatire sonde les profondeurs de Satan. Elle commence à avoir de la connaissance, mais qui ne vient plus d'en haut, qui vient d'en bas et qui amène la mort. On commence par l'arbre de la connaissance, on retient les doctrines au lieu de retenir le nom de Jésus. Et l'étape suivante, on commence à être frappé de sécheresse spirituelle et on commence à s'ouvrir au monde démoniaque. Oui, c'est sérieux. Hein? L'étape suivante, toujours dans cette pente descendante, c'est Sardes. Parce qu'il dit à Sardes, tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Et il lui dit, je n'ai pas trouvé tes œuvres accomplies. Et je ne vais pas redire ce que j'avais dit à l'époque quand j'avais parlé de Sardes. Mais là, comprenons-le, parce que c'est bien le mot qui est employé, comme la foi qui n'est pas accomplie par les œuvres de la foi. On ne parle pas des œuvres de la loi, on ne parle pas des œuvres de la chair, on parle simplement de l'obéissance. L'obéissance disparaît. Il n'y a plus qu'une foi définie par des credos, des positions, mais il n'y a plus cette dynamique de marche par l'esprit, d'obéissance et d'accomplissement d'une foi vivante par les œuvres d'obéissance, les œuvres disparaissent. Alors là, on va dans l'activisme, on va dans tout un tas de choses, mais planifiées par l'homme, pas planifiées par Dieu. Ce ne sont pas les œuvres préparées d'avance afin que nous les pratiquions, ce qui veut bien dire que nous n'avons aucun choix quant aux œuvres que Dieu nous demande de faire. C'est lui qui nous conduit à ceci, rendre visite ici, faire cela, etc. Ce sont des choses que Dieu a décidées de toute éternité. On perd ce contact-là et on se met à planifier par nous-mêmes ce qu'il faut faire. Arbre de la connaissance, on s'attache aux doctrines, la lettre devient sèche, on commence à s'ouvrir au monde spirituel et la foi perd sa vie puisqu'elle n'a plus les œuvres. Comme le dit Jacques, la foi sans les œuvres de la foi, elle est morte. Encore le thème de la mort. Jacques 2. Et la dernière étape de ça, quand même la foi devient morte, c'est Laodicée. C'est ce que l'on a dit donc il y a un mois, c'est l'exclusion mutuelle. Jésus est dehors, et ceux qui étaient en Jésus sont vomis par Jésus. C'est un rejet mutuel. Jésus vomit ceux qui sont tièdes, et inversement, l'Église tiède met Jésus dehors. Comme je l'ai dit tout à l'heure, à tel point que Jésus même doit frapper à la porte. Arbre de la connaissance, attachement aux doctrines, sécheresse quant à la lecture de la parole, elle n'est plus vivante, on s'ouvre à d'autres sources d'influence démoniaque, la foi se met à sécher, elle n'a plus les œuvres, la foi devient morte, nous dit Jacques, et enfin, Jésus finit par être dehors. Ouf. Est-ce que vous voyez la logique dans ce cheminement? On comprend alors ce que Paul dit quand il dit « Un tel m'a abandonné, ils ont abandonné la foi, ils ont... » C'est sérieux. Ça, c'est parce qu'il y a quelque chose, une dynamique qui est mise en place dès le départ. Et la première chose, on perd l'arbre de la vie. L'arbre de la vie, je le rappelle, c'est la croix, dont le fruit, c'est Jésus. C'est le bois dont on parlait ce matin. Le bois sur lequel a été pendu celui qui a été maudit à notre place. On perd cet accent de la croix et on commence à partir de la connaissance. Autrement dit, dans l'autonomie, parce que c'est ça que ça veut dire. L'arbre de la vie, je dépends entièrement de lui. L'arbre de la connaissance, je ramène tout à hauteur d'homme. Ce que je comprends, ce que je fais, ce que j'entreprends, c'est la hauteur d'homme. On n'est plus dans la dépendance. On parlait du joug ce matin. La vie chrétienne consiste à passer d'un joug à un autre. C'est surtout pas à s'émanciper. On passe du joug de l'esclavage à la conjugalité avec Jésus. Mais en aucun cas nous sommes appelés à devenir autonomes. Et c'est le drame de la société d'aujourd'hui qui promeut l'individualisme, l'autonomie. Vous voyez ? Alors que le Seigneur nous demande d'être dépendants de lui, conjugués à lui. De la même manière, j'aime bien dire qu'on passe d'un esclavage à l'autre. L'esclavage du péché à l'esclavage de la justice. Romains 6. On devient esclave de Jésus parce que nous n'avons aucune justice à lui donner et qu'il a tout accompli. Nous devenons dépendants de lui. On passe d'un joug à l'autre, joug léger, et d'un esclavage du péché à l'esclavage de sa justice qui nous a franchis du fardeau de la culpabilité. Mais à aucun moment, nous ne devenons libres et autonomes de faire ce que nous voulons. Voilà, ça c'est le chemin de descente. Alors regardons maintenant le bandeau donc, qui est en haut. Et là, on va aligner les promesses que Jésus fait aux vainqueurs dans chacune des églises. Je note d'emblée une chose qu'on a à nouveau dite, je crois, hier soir, mais il est bien de le dire. Jésus, quand il fait les promesses, il ne dit pas à l'Église qui vaincra. Et il ne dit pas à ceux qui vaincront. Il dit à celui, celle qui vaincra. C'est un appel personnel. Nous devons le prendre personnellement. Je ne peux pas vivre ma foi au travers de quelqu'un d'autre. C'est d'abord la conjugaison avec Jésus. Et ensuite, deuxième étape, on le partage entre nous. Puisque tout est établi sur la base de deux ou trois témoins, d'où l'importance de partager ce que l'on reçoit et ce que l'on vit. Et ça permet une édification mutuelle et ça permet une attestation par l'esprit. Waouh, ce que tu viens de dire, ça correspond exactement à la question que j'avais. L'esprit vient d'attester. Les deux sont un. Vous voyez comment ça marche? C'est important ces temps de partage. Alors regardons le bandeau horizontal. Donc, Éphèse, les vainqueurs d'Éphèse se nourrissent de l'arbre de la vie. Donc je l'ai dit tout à l'heure, la dépendance à la vie de Jésus, la perte de l'autonomie, la conjugaison à lui et la reconnaissance qu'il a tout accompli. Je n'ai pas à faire d'efforts pour mériter quoi que ce soit devant Dieu. J'ai juste, et quelqu'un l'a dit tout à l'heure, qui l'a dit tout à l'heure? Je pense que c'est toi, Abdel. Quand tu as dit, la seule chose que Dieu nous demande, c'est de nous attacher à lui. C'est de le rechercher lui. On ne peut rien faire d'autre. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. La seule chose, Jean 15, la seule chose qu'il nous demande, c'est de le chercher. C'est de le désirer, c'est de... Voilà. C'est la seule chose dont on soit capable. le désirer, le rechercher, et il fait le reste. Ça, c'est l'arbre de la vie, voir saisir le fruit de l'arbre de la vie, qui est Jésus lui-même. Quand on mange le pain, on mange du fruit de l'arbre de la vie. « Je suis le pain de vie, » dit Jésus, Jean 6. « Je suis le pain de vie, je suis le pain descendu du ciel, je suis l'arbre de vie. » C'est ce que nous dit Jésus. « De moi, source des fleuves d'eau vive. » Voilà, Jésus est toujours envoyé au thème de la vie. Donc, l'arbre de la vie, la promesse au vainqueur, c'est à celui qui met Jésus en premier dans sa vie. C'est ça que ça veut dire. Ça se manifeste par la révélation de la parole, ça se manifeste par la vie de prière, où on contemple la gloire de Jésus, on médite sur qui est Jésus, la personnalité de Jésus, le caractère de Jésus. Et ça nous fascine. Parce qu'on voit quelqu'un, comme il est dit dans un des psaumes, « Tu es le plus beau des fils de l'homme, car la grâce est répandue sur tes lèvres. » Et on a envie de connaître cette grâce, cette compassion, cet amour. Voir Jésus et être captivé. On disait hier soir que, et c'est, de temps en temps, c'est un peu la méditation dans mon canapé, là, et je dis, mais qu'est-ce que ça va être le jour où on va te voir ? On va voir quelqu'un d'une simplicité, d'une humilité, d'une douceur, mais surtout d'une simplicité. Nous qui sommes compliqués, nous qui pensons que si je n'ai pas bien compris telle et telle chose, alors ben, voilà, on pense que c'est parce qu'on comprend mieux que notre vie spirituelle sera meilleure, alors que c'est la communion avec Jésus qui rend notre vie spirituelle meilleure. Vous voyez ? On se complique, on se met des fardeaux, on se met des niveaux, on se met des standards, et on fait énormément d'efforts. Et on va voir un Jésus, mais d'une simplicité. J'anticipe sur le vainqueur de l'Odyssée. Si quelqu'un ouvre la porte, j'entrerai et je souperai avec lui. On aurait pu dire, et je vais lui faire un exposé théologique depuis l'histoire, la création du monde, tout lui expliquer. Ben, je vais souper avec lui. C'est tout ce qui intéresse Jésus, manger avec nous. Vous voyez ? Et on se complique énormément. Et c'est parce qu'on se complique qu'on traîne, on retarde, il y a des luttes. On se complique, Jésus est extrêmement simple. De même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Jésus. 2 Corinthiens 11. C'est le serpent qui complique les choses. La simplicité. Donc pour moi, l'arbre de vie, c'est ça. Dieu demandait à Adam et Ève, mange du fruit de l'arbre de la vie, et tout ira bien. C'est tout ce qu'il lui demandait. Et tous les soirs, l'Éternel apparaissait dans le jardin, pas pour lui faire des sermons théologiques. Alors, qu'est-ce que tu as découvert dans le jardin aujourd'hui ? C'est quoi le nouveau fruit là, que tu as goûté ? Qu'est-ce que tu as essayé de planter là, pour voir si ça pousse ? Vous voyez ? Dieu intervient dans le jardin et parle à Adam et Ève, tiens, qu'est-ce que tu as fait dans la journée ? Dieu, il est père et fils. Le père ne voit que le fils ne voit que le père. La dynamique au sein même de Dieu est une dynamique relationnelle, d'adoration mutuelle, si je puis dire, de dépendance mutuelle, de partage, de relation, d'amour, de communion. C'est la nature profonde de Dieu. Et s'il nous a créés, c'est parce que c'est son seul désir, entrer en relation avec nous. Donc ne compliquons pas les choses. Il y a un fruit qu'il nous faut manger, c'est l'arbre de la vie. Et le fruit, c'est Jésus, qui offre sa chair, qui offre son sang. Et il dit, mais celui qui mange ma chair et boit mon sang, il a la vie. Et celui qui mange du fruit de l'arbre de la vie est préservé de la mort. Il est passé de la mort à la vie, de la mort spirituelle à la vie spirituelle. Ça, c'est Smyrne. Et Jésus lui dit même, je te préserverai de la mort. Donc on voit les deux thèmes de vie que j'avais mentionné au départ, communs entre Éphèse et Smyrne. Manger du fruit de la vie, préserver de la damnation éternelle. Parce que la seconde mort, c'est la gêne. Mais ça va plus loin. Pergame. Non seulement tu mangeras de fruits de la vie, mais il est dit, je te donnerai de la manne cachée. Ça veut dire quoi pour moi? On l'avait dit la dernière fois quand on avait parlé de Pergame. C'est l'intimité avec Jésus. C'est une manne, le pain de vie, la manne qui est tombée dans le désert, le pain de vie. Mais c'est une manne cachée, qui est donnée dans le lieu secret, dans la chambre d'intimité, la manne. Là, pour moi, c'est la signature de l'intimité dans la relation avec Jésus. Et vous voyez que là, encore une fois, c'est le thème de la nourriture. Donc, manger de l'arbre de vie, être préservé de la damnation éternelle, mais entrer en communion avec Jésus par le repas, la manne cachée. Mais ça va plus loin. À Thyatire, la promesse est faite de l'autorité. Ça, c'est l'autorité spirituelle. Vous vous souvenez de ce que Jésus, la foule disait à propos de Jésus? Lui, il ne parle pas comme les scribes et les pharisiens, mais il parle avec autorité. Et pourquoi est-ce que la foule reconnaissait que Jésus parlait avec autorité? Parce que Jésus vivait ce qu'il disait. C'est pour ça que Jésus va dire à des religieux, mais ils disent et ne font pas. Donc faites ce qu'ils disent, mais ne faites pas comme ils font, parce qu'ils disent et ne font pas. Jésus parlait avec autorité parce qu'il vivait ce qu'il disait. C'est là encore, c'est la conséquence. L'arbre de vie, la manne que l'on reçoit, vivifie la parole. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en contraste, la parole pour Thyatire était devenue sèche. Et là, pour le vainqueur, pour celui qui s'attache à Jésus, la parole devient à une autorité, elle a un poids. L'arbre de vie, la manne, l'autorité. Mais ça va plus loin, Sardes. Le vêtement blanc, qui est le vêtement de la justice. Et on a dit tout à l'heure que la justice, elle doit être accomplie dans l'obéissance. La foi devient vivante par l'obéissance. Et la justice, nous dit Paul dans Romains 8, verset 4, la justice de la loi, elle est accomplie en ceux qui marchent par l'esprit. Donc là, on a cette image maintenant. Non seulement il y a l'autorité spirituelle, mais il y a la justice, le vêtement blanc, qui s'accomplit par la marche par l'esprit. Là où Sardes, en contraste, là, exactement la même église, sa foi n'était pas accomplie en œuvre. Donc là, il y a un accomplissement qui vient avec l'arbre de vie, la manne cachée, l'autorité spirituelle. Il y a un accomplissement en nous, l'accomplissement de la justice, l'accomplissement de la foi. Elle produit des œuvres, elle produit une marche par l'esprit, puisque les œuvres préparées d'avance s'accomplissent par la marche par l'esprit, en étant conduit de Dieu. C'est ça que ça veut dire la marche par l'esprit. Hein. On se laisse conduire par Dieu, donc on l'interroge, on le prie, on lui demande, et on voit comment Dieu va organiser les choses. Ça, c'est la marche par l'esprit. On se met en dépendance. Mais ça va encore plus loin, puisque à Philadelphie, cette fois, il est dit, je ferai de lui une colonne dans le temple de Dieu. Et le terme colonne, on le retrouve par ailleurs, la colonne est l'appui de la vérité. Et la vérité, donc dans le sens araméen, c'est ce qui est ferme, ce qui affermit. L'esprit de vérité est un esprit qui affermit notre cœur. On l'avait déjà dit ça dans des prédications, donc je ne vais pas tout répéter bien sûr, mais là, ce que l'on voit, enfin ce que je vois en tout cas là comme promesse, c'est ce que dit par ailleurs l'apôtre Pierre. Pierre vivante, assemblez-vous autour de la pierre vivante. Autrement dit, on devient part d'une construction qui va bien au-delà de nous. C'est celle du troisième temple, qui est la Jérusalem céleste. C'est le bâtiment qui reçoit la gloire de Dieu. On est intégré, enchâssé avec les autres autour de la pierre vivante. Donc là, voilà, la Jérusalem est en construction et on est intégré dans cette construction. Et enfin, la Laodicée. C'est « Je le ferai asseoir sur mon trône, dit Jésus, comme j'ai vaincu et je me suis assis sur le trône du Père. » Assis avec Christ dans les lieux célestes, on le chante. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Être uni avec Jésus et assis avec lui sur le trône. Asseoir sur le trône, ça veut dire avec celui qui est l'arbre de vie, ça veut dire la position d'autorité, revêtus de blanc comme les 24 vieillards autour du trône, Apocalypse 4 et 5, ils sont également vêtus du vêtement blanc. Ça veut dire tout ça. Mais on voit bien que être assis avec Jésus, c'est le terminus quelque part. C'est le terminus de notre vie sur terre et le début des temps éternels. Nous régnerons pour l'éternité avec lui. L'arbre de vie, la manne cachée, l'autorité spirituelle, la justice qui s'accomplit, l'intégration dans le temple et la nouvelle Jérusalem, et enfin, assis sur le trône avec lui pour régner dans le monde qui vient. Donc il me semble, voilà, que dans ce bandeau là qui est en haut, quand on aligne les promesses, on a également une trame de la vie chrétienne avec Jésus, et on a des points d'ancrage précis qui nous servent de repères, les choses auxquelles il faut veiller. L'intimité avec Jésus, prendre du temps dans la prière, s'ouvrir à lui, j'ai souvent parlé de ça, l'importance de prendre ce temps et de se mettre à nu devant lui. On n'a de toute façon rien à lui cacher puisqu'il sait tout. Voilà, ça c'est ce qui concernait le bandeau en haut. J'espère que ce que j'ai dit était clair, ça va? Et parce que je vois que le temps passe, j'aimerais consacrer les 10 dernières minutes à, comme je l'ai dit, cette dernière remontée qui concerne, la dernière colonne donc, l'église de Laodicée. Parce que l'état de Laodicée, Jésus est dehors, Jésus a vomi ce qui était en lui. Donc faisons attention avec l'expression « en Jésus ». Je suis en Jésus, nous sommes en Jésus. Jean 15, je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et si vous faites une petite étude biblique, vous verrez que c'est une chose que d'être en Jésus, mais cherchez également tous les passages où il est question de Jésus en nous. Dans Jean 14, 15 et 16, il est dit « Moi en vous et vous en moi ». Ça doit être mutuel. Vous voyez ? Ce n'est pas simplement « Je suis en Jésus, donc ceci, Dieu me voit au travers de Jésus, etc. » C'est également « Jésus vit en moi ». Jésus vit en moi. Donc Laodicée était prompte à se proclamer être en Jésus. Mais étant tiède, Jésus la met dehors. Donc faisons attention à ces expressions parfois qui sont des patois de Canaan qu'on emploie un peu facilement sans réaliser la portée de ce qu'on est en train de dire. Hein? C'est Jésus en nous et nous en Jésus. C'est là que le mariage est consommé. Jésus en nous, nous en Jésus. De même que le Père est en moi et que je suis en le Père, de même je serai en vous et vous serez en moi. Il faut les deux. C'est ça l'accomplissement. Les deux. Donc voilà l'état de Laodicée quand Jésus lui envoie son message. Mais il ne la laisse pas là. Il lui dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or purifié par le feu, des vêtements blancs afin qu'on ne voit pas la honte de ta nudité, et un collier pour les yeux afin que tu vois. Alors comme c'était le dernier message, et c'était donc il y a un mois, est-ce que vous vous rappelez ce que l'on avait dit à propos de cet or purifié par le feu? Ça symbolisait quoi? Et on avait fait appel à une épître de Pierre qui comparait l'or purifié par le feu avec la foi éprouvée, purifiée par les épreuves. Laodicée n'avait plus la foi. Ou plutôt, elle avait réduit la foi à une confession de foi, alors que la foi, fides en latin, a donné deux mots complémentaires. Je l'avais dit la dernière fois, donc je ne vais pas tout redévelopper. La confiance et la fidélité. La confiance, c'est l'état de repos dans lequel on entre parce que Jésus a accompli l'œuvre du salut. On n'a plus à mériter quelque chose et à essayer de bâtir une propre justice devant Dieu, et la fidélité dans l'accomplissement des œuvres que Dieu a préparées d'avant, dans la marche avec lui. Laodicée avait perdu cette foi vivante. Et donc, la première chose qui nous est adressée à nous, puisque je pense que nous vivons dans ce temps de Laodicée, c'est de bien veiller sur cette foi, savoir que les épreuves sont là pour affiner notre foi, mais surtout que ça doit être une foi relationnelle et non pas une foi rationnelle. La foi n'est pas, comme on l'a dit, n'est pas définie par un credo de doctrine. La foi est définie par une relation à Jésus. Confiance, fidélité. Pour ma part, dès que je vois le mot foi dans la Bible, je mets confiance et fidélité. Pour bien marquer la dimension relationnelle de la foi et pas simplement la dimension credo, etc. La deuxième chose, c'est la robe de la justice. Laodicée a perdu de vue ce qu'était la justice. Alors ça, c'est assez étonnant. Parce qu'on va tous se dire, oui, Jésus a tout accompli, je crois qu'il est mort à la croix pour moi, etc. On oublie juste que la foi doit s'accomplir, à nouveau Romains 8:4, par la marche par l'esprit. On ne peut pas dissocier l'accomplissement de la justice de la marche par l'esprit. Relisez Romains 8, qui vient à l'après Romains 7, où il y avait cette bataille, le bien que je veux faire, je ne le fais pas, le mal que je ne veux pas faire, je le fais quand même. À un moment, on hurle devant Dieu, mais malheureux, malheur, mais qui va me délivrer de cette polarisation de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Et c'est la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Et là, vous avez Romains 8, le dénouement par la marche par l'esprit et l'accomplissement de la justice. Je cesse de la chercher en moi, je la trouve en lui et en lui seul. Et enfin, le dernier point que Jésus dit à Laodicée, achète de moi du collyre. Le collyre, donc pour que tu vois, autrement dit, c'est l'appel au discernement. Et c'est vraiment quelque chose qui manque aujourd'hui. Il n'y a qu'à voir toutes les sortes de choses qui se passent dans les différentes églises. Ça part à volo dans toutes les directions. Le discernement. Le discernement. Celui qui marche avec moi ne sera pas dans les ténèbres, mais il aura en lui la lumière de la vie. Comment voir si je n'ai pas la lumière? Or, Jésus est la lumière. Donc, l'appel au collyre pour que tu vois, c'est l'appel à « Je suis la lumière du monde. Celui qui marche avec moi ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura en lui la lumière de la vie. » Là, c'est la lumière de la vie dont il est question, qui donne en particulier le discernement. Et dans ces trois choses-là, la foi comprise comme relation vivante avec Jésus, relation conjugale, faite de confiance, c'est-à-dire d'abandon, d'entrée dans le repos et de fidélité dans le service à Jésus. L'appel à la justice qui s'accomplit par la marche par l'esprit et le collyre, le discernement en marchant à la lumière de l'arbre de la vie. Mais est-ce qu'on ne trouve pas là les composantes d'un appel au réveil? Si vous avez lu des livres sur le réveil, donc j'en ai une pile à la maison, c'est frappant de voir que les réveils ont tous un point commun. D'abord, s'il y a réveil, c'est qu'il y avait approfondissement, il y avait assoupissement. On dormait tranquille. Non, ça c'est la première chose, s'il faut se réveiller. Réveille-toi, toi qui dors, lève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. C'est ce que Paul écrit à Corinthe. Donc s'il y a réveil, c'est qu'il y a eu assoupissement, il y a eu endormissement. Et tous les réveils dans l'histoire de l'Église commencent toujours par la repentance. Et la repentance, c'est redécouvrir ce qu'est cette foi vivante, et non pas crédentielle, non pas basée sur des credos et la connaissance et la théologie et la doctrine, mais c'est redécouvrir la foi en tant que moteur vivant d'une relation avec Jésus. Redécouvrir, comme je l'ai déjà dit, je crois, dans un des messages, « Il a tout, je n'ai rien, il est tout, je ne suis rien, il sait tout, je ne sais rien, il peut tout, je ne peux rien. » La voie du dépouillement, la voie de la repentance, c'est la voie du dépouillement. C'est ça qui exalte Jésus et qui nous fait contempler sa gloire. Et la conséquence de ça, c'est le collier, le discernement. Mais regardez l'ordre, hein, c'est pas pour rien que Jésus commence par la foi, puis la justice, puis le discernement, la lumière de la vie. Hein? Et bien là, on a un chemin de réveil. Et donc, même l'Odyssée perdue dans ce rejet mutuel où Jésus était dehors, même là, Jésus frappe, et celui qui ouvre la porte redécouvre cette foi vivante, cette justice et ce discernement, hop, se retrouve à souper avec Jésus. Donc même l'Odyssée, qui vous l'avez vu, est tout à fait en bas de ma voie descendante, là, le chemin qui mène à la mort, même l'Odyssée, Jésus lui offre un chemin d'ascension pour retrouver la communion avec lui. C'est absolument parfait, le timing est parfait. Donc voilà ce que je voulais partager aujourd'hui. Comme je l'ai dit, en montrant le chemin large, le chemin étroit et la porte qui est toujours ouverte du côté de Jésus, si donc, on achète de lui ici donc la foi, la justice, la vision. Alors quand on dit acheter, évidemment, on ne sait pas qu'on peut acheter avec de l'argent, hein, mais c'est qu'on achète au prix de notre vie, c'est-à-dire en union avec lui. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, celui qui la perdra, voilà le prix à payer. Quelqu'un a cité Bonhoeffer tout à l'heure. Je relisais encore ce week-end « Le prix de la grâce » par Bonhoeffer. Vraiment, je vous recommande de le lire.
Il est sur le site.
Il est sur le site, oui, parfait. Il faut vraiment lire le premier chapitre. Voilà, la grâce, elle coûte quelque chose. La grâce, elle coûte quelque chose. Comment recevoir la justice de Jésus si je ne perds pas ma propre justice? Comment recevoir la vie, la marche par l'esprit si je ne me repens pas? Alors après, on peut se poser des questions. Est-ce que c'est Dieu qui agit en sous-main? Est-ce que c'est nous qui le faisons? Non, la parole dit « repens-toi ». C'est le début de l'évangile de Marc. L'évangile, commencement de l'évangile, repens-toi. Et c'est ce que dit Jésus à 5 des 7 églises. Repens-toi. Voilà. J'espère vous avoir dressé un petit tableau, comme on l'avait dit, dans une espèce de synthèse des 7 églises, en essayant de montrer donc, des continuités d'une église à l'autre. Donc vous gardez évidemment ce schéma. Je pense donc le PDF correspondant, on l'associera avec l'enregistrement d'aujourd'hui. Comme ça, si d'autres veulent écouter, ils auront le schéma sous les yeux. Est-ce que quelqu'un veut bien conclure par la prière? Enfin, conclure, ou alors je te redonne la main.